Et bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Caracas, Venezuela, c'est là que nous irons dès le début de ce journal, au cœur de cette grande manifestation d'opposition. Plus on se rapproche de dimanche, jour d'élection contestée, et plus la tension monte, nous dira Sandrine Etoa-Andegh. Un coup de tension diplomatique aussi entre la Russie et les États-Unis. Le Kremlin limite le nombre de diplomates américains sur son sol pour protester contre les sanctions économiques votées au Congrès cette semaine. Nous appellerons Jean-Didier Revoin à Moscou. Collaborer avec la Libye pour gérer la crise migratoire en Méditerranée, ça semble indispensable, mais c'est loin d'être simple. Nous étudierons l'exemple italien avec Xavier Sartre à Rome. Le Conseil d'État français, lui, pourrait obliger le gouvernement à installer des points d'eau, un minimum de dignité pour les migrants à Calais, un dossier suivi par Florence Turme. Et en cette fin de semaine, nous prendrons des nouvelles des projets de loi de moralisation de la vie publique après une semaine donc de débats houleux à l'Assemblée. Que reste-t-il des mesures voulues par Emmanuel Macron? Question posée à Lise Verbeck. Et puis juste après ce journal, 18h15, ce sera du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgoin.
Oui, c'est donc ça, Xavier Sartre, c'est à cause de lui que vous m'avez rebaptisé tout à l'heure, Camille. Parlez-vous l'émoticône?
Non.
Eh bien, c'est la question qu'on posera tout à l'heure à Virginie Béjot, André Gunther, Pierre Altet et Ludovic Houplin.
À tout à l'heure. Ils sont décidés, ni plus ni moins, à prendre Caracas. Les opposants au président vénézuélien Nicolas Maduro n'ont plus vraiment le choix. Ils doivent mobiliser le plus largement possible aujourd'hui dans leur grande manifestation à travers la capitale. Le bras de fer entamé depuis 4 mois avec le pouvoir chaviste semble bien devoir arriver à un dénouement ce week-end autour de l'élection d'une assemblée constituante voulue par Maduro, honni par ses adversaires. À Caracas, la manifestation doit débuter. Bonsoir Sandrine Etoa-Andegh.
Bonsoir Camille.
Vous êtes l'envoyée spéciale donc de France Culture et vous trouvez sur la place Altamira, le lieu de rassemblement de l'opposition.
Oui, effectivement, je suis dans la municipalité, au cœur de la municipalité de Chacao. C'est l'un des districts de Caracas, à l'est de la capitale. C'est le bastion de l'opposition qui appelle donc, vous l'avez dit, ses soutiens à s'en rassembler depuis maintenant. Il est midi ici à Caracas. Et l'hostilité au président Maduro s'affiche partout ici sur les murs. On peut lire « Maduro dictateur, Maduro assassin, la constitution est une farce ». Alors pour l'instant, c'est calme en apparence. Reste à savoir pour combien de temps, puisque cette place, Altamira, était le lieu clé des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants, et ce, depuis de la contestation, le début de cette contestation en avril. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a plusieurs hôtels qui ont décidé de se barricader, des hôtels qui donnent sur la place. On peut voir des jeunes hommes, parfois très jeunes, avec des sacs à dos, commencer à arriver. Certains ont le visage caché par un foulard. Voilà, pour l'instant, ils sont posés sur la place. On sent qu'ils attendent quelque chose. Et puis il y a aussi des badauds qui eux aussi regardent cette place un petit peu comme s'il allait y avoir un spectacle dans les prochaines heures. En tout cas, le message du numéro 2 du Parlement, hein, qui, on le sait, est tenu par l'opposition, Freddy Guevara, est très clair sur Twitter. Il appelle les Vénézuéliens non plus à bloquer les rues, comme ça a été le cas ces dernières 48 heures, mais à sortir de chez eux, à occuper les rues et les axes principaux, voilà, pour montrer cette opposition claire et déterminée à l'élection de dimanche.
Sandrine Etoa-Andegh, merci à vous en direct donc de Caracas et merci également à Marc Garvanès pour les moyens techniques de ce duplex. Des diplomates américains bientôt expulsés de Russie, comme au bon vieux temps du téléphone rouge, Moscou lance des rétorsions diplomatiques après ces nouvelles sanctions votées contre son économie par le Congrès américain. Les États-Unis vont donc devoir réduire leur présence consulaire en Russie, mais la contre-attaque russe ne s'arrête pas là. En fait, elle répond en quasi-symétrie aux sanctions qui avaient été prises par Washington en décembre contre les diplomates russes. C'est ce que nous explique Jean-Didier Revoin depuis Moscou.
À partir du 1er septembre, le personnel diplomatique des États-Unis en poste en Russie sera réduit à 455 personnes. Une diminution qui correspond au nombre de diplomates russes actuellement en poste aux États-Unis. De plus, l'ambassade américaine ne pourra plus utiliser une résidence ainsi que des entrepôts situés en périphérie de Moscou. Ces mesures sont une réponse symétrique à l'exclusion en décembre dernier par l'administration Obama de 35 diplomates russes accusés d'être des espions et à la fermeture de 2 sites à New York et dans le Maryland. Une vexation à laquelle Moscou n'a pas souhaité répondre immédiatement. immédiatement, préférant attendre l'arrivée de l'administration Trump. Mais comme l'a souligné hier Vladimir Poutine, la patience de la Russie a des limites. Avant même que Donald Trump n'ait entériné les nouvelles sanctions contre la Russie, que le Congrès a validé cette semaine à une écrasante majorité, Moscou a donc décrété des représailles contre les intérêts américains en Russie, tout en se réservant le droit de prendre des mesures supplémentaires, à moins que Washington ne revienne à la raison, comme l'a laissé entendre le ministère russe des Affaires étrangères. Si ces représailles russes se résument à un prêté pour un rendu qui ne devrait pas entraîner de lourdes conséquences, c'est que Moscou marche sur des œufs. Après les récessions de 2015 et 2016, 2017 devait permettre à la Russie de renouer avec la croissance. Or, ces nouvelles sanctions et les représailles promises par Vladimir Poutine ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur la conjoncture économique, et à quelques mois de la présidentielle de mars prochain, les autorités russes ne souhaitent pas voir l'économie replonger.
Jean-Didier Revoin donc à Moscou. Incontournable mais pas forcément fiable, la Libye est devenue un partenaire obligé des Européens dans la gestion des migrants qui traversent la Méditerranée. L'Italie par exemple vient d'annoncer que dorénavant ses navires de garde-côte allaient croiser dans les eaux territoriales libyennes, s'approcher au plus près des rivages et des ports pour traquer les passeurs. Reste à savoir si les Libyens sont vraiment d'accord et s'ils vont coopérer. Et ça, on le voit avec Xavier Sartre depuis Rome.
Laissée seule face à l'afflux de migrants par ses partenaires européens, l'Italie tente de trouver des solutions avec la Libye, cœur du problème. La mission approuvée par le gouvernement de Paolo Gentiloni est simple, aider les gardes-côtes libyens dans la lutte contre les trafiquants d'êtres humains, autrement dit, empêcher les migrants et autres réfugiés de prendre la mer direction l'Europe, dans le pire des cas, les repousser sur les plages d'où ils sont partis. Pour cela, il fallait un cadre juridique clair, des règles d'engagement et une protection pour les militaires impliqués. Un navire de commandement, sans doute le San Marco, un transport de chaland et plusieurs unités plus petites seront déployées avec à leur bord entre 50 et 150 hommes. Les navires italiens ne pourront ni intercepter les canaux et autres embarcations de fortune des passeurs, ni transporter les migrants sur la terre ferme. Leur rôle est seulement technique et logistique. Cette mission répond à une demande formulée par le gouvernement libyen, gouvernement qui, jeudi, a démenti brièvement l'avoir fait avant de confirmer définitivement en avoir été l'auteur. Ce qui démontre combien le pouvoir libyen, officiellement reconnu par la communauté internationale, est faible et doit composer avec toutes les factions du pays. L'Italie, qui ne veut pas se rendre complice malgré elle de mauvais traitements aux migrants, entend parallèlement travailler à renforcer les capacités des centres d'accueil gérés par le HCR et l'Organisation internationale pour les migrations. Pas question pour Rome de sacrifier les droits de l'homme sur l'autel de la lutte contre les passeurs, mais cette position sera difficile à tenir tant que la Libye restera un vaste chaos.
Xavier Sartre, le dialogue va reprendre dans cette crise régionale qui oppose le Qatar et ses voisins, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Égypte. Les trois pays qui accusent Doha de soutenir des organisations terroristes vont envoyer ce week-end leurs émissaires rencontrer une délégation qatari à Manama, la capitale de Bahreïn. Les adversaires du Qatar exigent qu'il prenne ses distances avec l'Iran, qu'il démantèle une base militaire turque sur son territoire et qu'il fasse fermer sa chaîne de télévision Al Jazeera. Et puis on les disait affaiblis, les combattants islamistes de Boko Haram ont prouvé cette semaine qu'ils pouvaient encore semer la mort et la terreur. Dans le nord-est du Nigeria, ils ont attaqué un site pétrolier de la compagnie nationale. Les humanitaires sur place dénombrent déjà une cinquantaine de morts. Ils craignent que le bilan ne s'alourdisse encore dans les prochaines heures. Dans l'actualité française, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sommet d'apporter des réponses précises aux accusations lancées mercredi par Human Rights Watch. L'ONG compilait, on s'en souvient, des témoignages de migrants à Calais, victimes de violences et d'un harcèlement systématique par les forces de police. S'il y avait un quelconque dysfonctionnement, il devrait être corrigé. Dixit tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui parle d'allégations inquiétantes. Tout aussi inquiétantes, les conditions de vie, de survie, peut-être devrait-on dire, des migrants à Calais. Pour éviter un soi-disant appel d'air, le gouvernement, par la voix du même Gérard Collomb, refuse d'installer des points d'eau potable, des sanitaires dans la zone qui a été rasée après le démantèlement de la jungle. Eh bien, l'État pourrait bien être contraint d'agir par le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative étudiait ce matin l'appel lancé par l'État et par la ville de Calais après leur condamnation à la fin du mois de juin par le tribunal de Lille. La décision finale est attendue pour le début de la semaine prochaine, Florence Sturm, mais déjà le rapporteur public du Conseil d'État a conclu à l'urgence de remédier à la situation des migrants.
Oui, le rapporteur public s'est voulu très clair. Oui, il y a urgence à intervenir pour les 400 à 700 migrants actuellement présents à Calais et qui ne peuvent pas accéder à l'eau, un besoin existentiel. Le droit de toute personne à ne pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants revêt un caractère absolu, poursuit-il, quels que soient les choix politiques et les politiques publiques menées. Les arguments de la ville de Calais ne résistent pas à la démonstration, estime également l'avocat des associations et des migrants, Olivier Coudray.
La création d'éléments, quels qu'ils soient, d'aide aux migrants isolés ou aux migrants en difficulté dans le secteur de la commune de Calais n'a jamais été à l'origine d'un appel d'air quelconque. Ces mesures les aident à survivre et ça ne les empêche pas d'y venir quand bien même il n'y a pas ces mesures. Il faut partir du constat que cette situation existe et que la régler, c'est probablement le rôle de l'État, mais au moins faire en sorte que les gens qui sont présents sur le territoire de la commune de Calais ou alentour, on apporte le strict minimum en termes sanitaires, c'est même pas discutable.
Pas discutable, même si la ville, elle, soutient le contraire. Emmanuel Agius, le premier adjoint au maire de Calais, dénonce une situation sans fin et redoute déjà la décision de justice à venir.
Ces points d'eau, ces lieux, tout ça on l'a fait et ça n'a pas fonctionné. Ça a fini par devenir des squats ou une lande ou une jungle, j'aime pas ce terme. Je ne fais pas le verdict avant le verdict, le délibéré avant le délibéré. Mais j'ai l'impression que nous n'aurons pas de nouvelles au moment du délibéré. Et c'est navrant parce que le dernier recours finalement, et bientôt je le crois, c'est une fois de plus le maire de Calais, place Beauvau, en train de rencontrer le ministre de l'Intérieur pour lui dire « je refuse ». Si ça se confirme, ce qu'on me demande, et de facto, aidez-nous, monsieur le ministre, chose que l'on demande finalement depuis maintenant 9 ans.
C'est-à-dire que si le Conseil d'État va dans le même sens que le rapporteur public et ordonne la création des points d'eau, vous dites aujourd'hui que vous n'appliquerez pas la décision de justice ?
Il y a de grandes chances. Je ne suis pas le maire de Calais, je ne parle pas en son nom, mais philosophiquement je connais sa pensée, il y a de grandes chances.
Le Conseil d'État rendra sa décision au début de semaine prochaine.
Florence Thurn, merci à vous. Une décision qui a été rendue aujourd'hui par le Conseil d'État. Elle concerne cette saisine par l'Observatoire international des prisons qui exigeait que de la justice administrative qu'elle ordonne un plan d'urgence pour la prison vétuste et surpeuplée de Fresnes. Le Conseil d'État confirme que les conditions de détention là-bas sont assimilable à des traitements inhumains et dégradants portant atteinte à la vie privée des détenus, mais le même Conseil d'État confirme aussi que la lutte contre la surpopulation n'est pas de son ressort et qu'elle réclame des mesures d'ordre plus structurelles, donc qui ressortent des pouvoirs publics. C'est une semaine intense qui s'achève à l'Assemblée nationale. Les députés planchent toujours ce soir sur les lois dites de moralisation de la vie publique. Les débats devaient durer 4 jours. Au départ, il en aura fallu 5. Des discussions chaotiques, des présidents de séance un peu débordés. Bonsoir Lise Verbeek.
Bonsoir.
Vous avez suivi jour après jour ces débats parlementaires. Alors, on le sait, la moralisation de la vie publique, c'était un axe fort de la politique voulue par Emmanuel Macron. Qu'en reste-t-il donc après 5 jours de bataille à l'Assemblée ?
Alors, l'une des mesures les plus emblématiques votées par les députés, c'est l'interdiction pour un ministre ou un parlementaire d'employer un membre de sa famille proche. Validée également la suppression de l'indemnité représentative des frais de mandat, une enveloppe d'environ 5 300 € par député qui n'était pas contrôlée. Pour bénéficier de cette IRFM, un député devra désormais justifier ses dépenses. Autre mesure importante, rendre inéligibles les candidats et les élus condamnés pour crimes ou délits financiers, mais aussi pour injures, diffamations, provocations à la haine raciale, sexiste ou homophobe. L'obligation d'un casier judiciaire vierge a été retiré sur demande du gouvernement par crainte que cette mesure soit jugée inconstitutionnelle et ne fasse capoter la loi.
Alors Lise, plus de 900 amendements ont été déposés, retoqués quasiment systématiquement par la majorité En Marche. Mais il y a un amendement qui a été voté contre l'avis de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
Il concerne une pratique obscure et impossible à quantifier car très tabou, la rémunération de certains assistants parlementaires par des lobbies. Les élus socialistes du groupe Nouvelle Gauche ont proposé d'interdire cette pratique. La ministre et la rapporteure de la loi ont estimé que cette question n'avait pas à faire partie de la loi. Eh bien, la majorité En Marche en a décidé autrement et a voté l'amendement.
Et puis certains marcheurs lisent qui, sur un autre point, ont démontré un désaccord avec le gouvernement.
Concernant le verrou de Bercy, ce dispositif qui laisse au ministère de l'économie le monopole des poursuites pénales en matière de fraude fiscale, l'opposition, tout groupe confondu, a voté à l'unanimité pour faire sauter partiellement ce verrou. De même pour le groupe Modem et une douzaine de marcheurs. Si le verrou est finalement maintenu, cela a montré une première faille dans la majorité. Une autre faille pourrait s'ouvrir ce soir. Les débats très animés se sont engagés depuis 2 heures sur la suppression de la réserve parlementaire, des subventions que les députés distribuent à des collectivités ou à des associations. Beaucoup d'élus, toutes couleurs confondues, s'y opposent, y compris donc des marcheurs. Les prises de parole se sont succédées dans l'hémicycle où des députés ont démontré que cette réserve est nécessaire à leur ancrage local, quand d'autres dénoncent des dérives clientélistes. socialiste. Il y a eu 64 prises de parole uniquement sur l'article. Les députés sont actuellement en train de débattre sur les nombreux amendements.
Et ce n'est pas encore fini. Merci Lise Verbeek. Il va falloir encore continuer à regarder un petit peu la chaîne parlementaire. Le temps pour ce samedi, gris sur le nord-ouest, estival au sud et variable sur les autres régions. Au lever du jour, il fera plutôt frais pour la saison, 12 à 17 degrés en général, mais 23 degrés tout de même le matin en Provence. Ce journal était réalisé par Jean-François Braun à 22h. Vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour un nouveau point sur l'actualité.